Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, c'est aujourd'hui la 13e journée européenne de la prostate. Alors la prostate, ce n'est pas une maladie. La prostate, c'est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin, qui joue un rôle important dans la fertilité, la sexualité. Elle est exposée en fait aux mêmes infections que les organes urinaires et génitaux qui l'entourent. Cette glande peut donc être touchée par différentes pathologies. L'adénome de la prostate, qui est une hypertrophie bénigne de la prostate, l'infection de la prostate ou prostatite, et le cancer. Un dépistage d'ailleurs régulier permet de détecter ces problèmes le plus tôt possible, facilite ainsi le traitement. Je vous rappelle juste que le cancer de la prostate représente la deuxième cause de mortalité par cancer chez l'homme en France. Alors comment mieux prendre en charge les troubles de la prostate, dépister les cancers, quels sont les nouveaux traitements? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le professeur François Desgrandchamps, qui est chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Georges Armand Wegnin, qui est chirurgien urologue andrologue au CHU de Cocody en Côte d'Ivoire. Et en fin d'émission, nous parlerons de la réunion du réseau international des instituts Pasteur qui démarre aujourd'hui à Abidjan. Professeur François Desgrandchamps, bonjour.
Bonjour Claire.
Tout d'abord, on va parler d'une grande prostate que vous avez entre guillemets créée, parce qu'en fait c'est un organe qu'on connaît très mal. Vous avez eu envie du coup d'exposer une prostate au grand public, qu'on puisse rentrer à l'intérieur de cette grande prostate, et on va pouvoir en tout cas la voir à Paris le 17 octobre.
Oui, alors c'est une grosse structure gonflable qui représente la vessie et la prostate. Ça fait 4 mètres de haut et 7 mètres de long. L'intérêt, c'est de montrer aux gens qui connaissent pas cet endroit de leur anatomie à quoi ça correspond. Et donc les gens vont pouvoir rentrer par la vessie et sortir par l'urètre. C'est gonflable, donc on va pouvoir, comme vous le disiez en introduction, augmenter la taille de la prostate. Et les gens vont se rendre compte que quand on augmente sa taille, on a du mal à passer au milieu. C'est ce qui arrive à l'urine quand la prostate grossit. Et c'est pour ça que les gens ont des symptômes et des problèmes urinaires.
Donc ça, c'est le 17 octobre,
ce sera 17 octobre, et c'est le début de ce qu'on va appeler le prostate tour, c'est-à-dire cette grosse prostate géante va faire le tour de France, aller de centre urologique en centre urologique pour expliquer aux gens ce qu'est cette glande, quelles sont les maladies et comment les prévenir.
Et vous l'avez créé avec un designer?
J'ai eu beaucoup de chance parce que cette prostate, j'avais en tête depuis longtemps, j'avais les premiers dessins avec le constructeur, et c'est à ce moment-là que j'ai croisé par un réseau d'amis Philippe Stark, qui m'a rappelé que lui, il avait commencé sa carrière de designer dans les meubles gonflables. Ça l'a enchanté, cette histoire de prostate gonflable. Il m'a donné 2-3 conseils, et donc j'ai la chance maintenant de poser ma signature à côté de la sienne pour cette grosse prostate.
Et parce qu'on va voir tout au long de cette émission que ça reste en fait un organe mal connu des hommes et des femmes.
Totalement inconnu et tabou, très tabou. Le terme
parce
prostate,
que lié à la sexualité.
Le terme prostate n'est pas du tout glamour. J'ai pu rencontrer Thierry Marx 2 fois, le grand cuisinier, parce que je voulais faire un dîner de charité pour la prostate. Il m'a dit, écoute, moi je suis d'accord pour faire quelque chose pour la prostate, mais t'oublie le nom prostate, personne ne viendra.
Et donc il faut l'appeler comment dans ces cas-là?
Eh ben, il faut une circonvolution.
Oui, circonvolution. Autre point d'actualité importance, on a beaucoup parlé des tests de dépistage du cancer de la prostate, du test de PSA, qui ne donne pas une indication sur s'il y a un cancer ou pas, mais qui donne des signes avant-coureurs.
Des signaux d'alerte, voilà. pas d'alarme, d'alerte.
Et alors, il y a une dernière étude qui vient d'être publiée, qui était très attendue, parce qu'en fait, il y a une polémique sur la question, est-ce que finalement, on dépiste pas trop de cancers de la prostate, et est-ce qu'on n'en traite pas trop de cancers qui n'auraient pas évolué?
Absolument, et c'est important que tout le monde soit d'accord. Ces 10 dernières années, il y avait vraiment 2 camps, ceux qui voulaient dépister les cancers et ceux qui voulaient pas. Ceux qui voulaient pas se basaient sur une étude nord-américaine qui montrait que dépisté ou pas, on diminuait pas le risque de mourir de cancer de la prostate. À l'opposé, une étude européenne disait que oui, on réduisait la mortalité par cancer. Et en fait, l'étude américaine a été réévaluée statistiquement, et il se trouve que la raison pour laquelle on ne montrait pas d'intérêt du dépistage, c'est que les gens non dépistés, ils l'étaient quand même, parce que le dépistage repose sur le PSA, et que les Américains, bien en avance sur les Européens, avaient déjà popularisé le PSA à titre personnel. Et donc, les gens qui entraient dans l'étude n'étant pas dépistés, l'étaient par leur médecin traitant. Et donc, quand on réévalue tout ça, il est évident que dépister permet de réduire le risque de mourir de cancer de la prostate. Mais il faut faire attention, dépister ne veut pas dire traiter tout le monde. Il ne faut traiter que les personnes qui ont des cancers dangereux. Beaucoup de cancers dans la prostate ne sont pas dangereux. Et en preuve, le résultat du dépistage, il faut traiter 27 personnes pour en sauver une. Ce qui veut dire que dans beaucoup de cas, même si on n'avait pas traité, la personne ne serait pas morte.
Donc on a traité des personnes dont le cancer n'aurait pas évolué.
Un peu par surcroît de précaution, fait, parce que le mot cancer fait peur. Mais dans le cancer de la prostate, il y a deux maladies très distinctes. Une qu'on peut assimiler à une forme de vieillissement normal de la prostate. Il y a un score qui est dit de Gleason et un chiffre 6, chiffre que tous les malades qui ont un cancer de la prostate devraient connaître. Ça détermine exactement l'évolution de leur maladie. Si c'est un score bas de Gleason, 6, il n'y a pas beaucoup de risques. Et le rôle, c'est de savoir s'il faut traiter ou pas. Au-delà, au contraire, c'est de savoir comment traiter. Donc, c'est vraiment deux maladies très différentes qui, pour autant, portent le même nom, cancer.
Mais si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire qu'il faut continuer à dépister avec ce test de PSA, mais simplement, derrière, vous faites quoi ? Une biopsie pour savoir si c'est un cancer ou pas ?
Quand on a la chance de disposer de radio perfectionnée, on fait des IRM. Si le PSA est anormal, on fait un IRM. Si l'IRM est anormal, montrant une zone suspecte, on va biopsier à la zone suspecte. Ça, c'est pour les pays qui ont le plus de chance, et la France en fait partie, d'avoir tous les moyens de santé à leur disposition. Et sinon, donc oui, effectivement, le dépistage
par PSA... Mais
même
après tout ça, il y a des moments où vous ne traitez pas, parce que vous dites on est juste au tout début et que ça évoluera peut-être pas.
C'est pas ça, c'est même pas tout début, c'est que la maladie n'en est pas une. C'est le raisonnement dans le cancer de la prostate, c'est est-ce que ce que j'ai trouvé est une maladie ? Si c'est une maladie, il faut traiter. Si c'est pas une maladie, on surveille pour vérifier que le Gleason 6 dont on parlait tout à l'heure, donc les cancers pas agressifs, le risque d'évoluer avec le temps sur 15 ans, sur 20 ans, le risque d'en mourir, pour être clair, dépasse pas 5%. Et donc le rôle du médecin dans ces cas-là, c'est de vérifier que le patient ne fait pas partie de ces 5%. Et donc on va surveiller, c'est ce qu'on appelle la surveillance active, qui est très bien vécue par les patients.
C'est ça, mais
ils n'ont pas l'impression que c'est une épée
de Damoclès. Mais comment réagit votre patient quand vous lui dites, en fait, vous avez un début de cancer de la prostate, mais je fais rien.
C'est pas un début de cancer. Vous avez un cancer qui n'est pas agressif, et on va vérifier simplement par quelques examens réguliers que vous faites vraiment partie de ces 95% des hommes qui n'en entendront jamais parler. Quand vous faites des biopsies systématiques à tous les hommes de 50 ans, comme certaines études l'ont fait pour tester des médicaments, vous trouvez qu'à 50 ans, 25% des hommes ont des petits foyers de cancer. Quand vous faites des autopsies des hommes de 80 ans, 80% des hommes morts d'autre chose ont des petits foyers de cancer de la prostate pas agressif. Donc, il faut vraiment distinguer deux maladies différentes, pas agressif et agressif. Et le problème, c'est que le cancer de la prostate, pour être guéri quand il est agressif, il doit être découvert avant de parler. Quand un cancer de la prostate parle, c'est-à-dire qu'on a du sang dans les urines ou des douleurs, des difficultés pour uriner, c'est souvent un peu tard. Et donc, la seule façon de trouver ces cancers agressifs à un stade où on les guérit, c'est le dépistage. Mais dépister ne veut pas dire traiter.
On le retient bien, mais d'où l'intérêt du dépistage.
D'où l'intérêt du dépistage.
Les auditeurs sont nombreux à appeler pour vous poser des questions. On a Didier qui nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Didier, bonjour.
Bonjour, Claire.
On vous écoute, monsieur. Didier.
Oui, je voudrais savoir s'il y a un autre traitement à part l'opération. Parce que j'en ai souffert personnellement et le médecin m'a demandé de faire une opération. Et comme je n'avais pas de moyens, je demande s'il y a un traitement.
Et alors, vous avez souffert de quoi, Didier ? Parce que donc, on a bien compris que dans la prostate, il y avait plusieurs pathologies, mais c'était quoi, vous ?
Oui, bon, je fais une rétention d'urine et l'échographie a prouvé que j'avais une hypertrophie de la prostate. C'était à 152 mm.
D'accord.
Alors, professeur François Desgrandchamps. Voilà.
Donc, actuellement, vous avez toujours une sonde vésicale ou on a pu vous l'enlever ?
Je l'ai enlevée 2 mois après.
Elle a été enlevée au bout de 2 mois. Donc en fait, ça dépend un peu des circonstances. Si jamais votre rétention est arrivée brutalement, alors qu'avant vous n'étiez pas gêné, il est possible que vous puissiez éviter une opération, notamment avec des médicaments. Il y a des médicaments qui font diminuer la taille de la prostate, qui s'appellent finastéride ou dutastéride, que vous pourrez vous fournir. Si au contraire la rétention est arrivée après des années et des années de difficultés pour uriner, là il n'y a pas beaucoup de chances d'éviter l'opération. Et donc cette opération consiste à enlever l'adénome.
C'est ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous enlevez une partie, pas toute la prostate.
Là, il s'agit d'une maladie bénigne, qu'a Didier. C'est la prostate qui grossit avec le temps.
Quand elle vous grossit... dites bénigne, c'est pas cancéreux.
C'est pas un cancer. Elle grossit chez tous les hommes. 100% des hommes ont la prostate qui grossit à partir de 50 ans, mais il y a à peu près que 20% d'entre eux qui souffrent parce que ça gêne la sortie de l'urine. Dans le cas de Didier, ça serrait tellement la sortie de l'urine que ça s'est bloqué. Mais il y a deux circonstances. Soit, encore une fois, ça s'est bloqué brutalement. Et quand est-ce que ça se bloque brutalement ? C'est les conseils qu'il faut vous donner, Didier, c'est d'éviter de vous retenir pour uriner, par exemple, parce que plus la vessie est pleine, plus sera difficile de la vider, d'éviter de boire beaucoup d'un seul coup. C'est les fameux supporters, buveurs de bière, qui peuvent boire 3 litres de bière et puis après s'endormir et ils se bloquent. Éviter donc dans les longs trajets en avion, les hémorroïdes, tout ça, ça peut provoquer des rétentions. Dans ces cas-là, c'est réversible et si on fait attention, c'est pas la peine d'opérer. Mais si c'est l'aboutissement d'une longue histoire de gêne urinaire, il faut opérer. L'alternative que l'on propose, nous, actuellement en France et dans d'autres pays, c'est l'embolisation de la prostate. Mais si c'est un problème financier, l'embolisation va aussi coûter quelque argent. Et puis, c'est un problème d'accès aux soins. L'embolisation, il y a quelques centres très chevronnés qui arrivent à le faire. Donc, globalement, encore une fois, Didier, si vous souffrez beaucoup depuis longtemps et que le blocage est finalement l'aboutissement, longue année de souffrance, il faut vous faire opérer. Si au contraire, c'est une sorte de coup de tonnerre dans un ciel serein, que ça allait bien avant, vous pouvez essayer les médicaments.
Vous avez, je crois, une autre question à poser, Didier.
Oui, je fais beaucoup de sport. Alors, à chaque fois que je fais le sport, le jour qui suive, le rythme d'aller uriner diminue.
Diminue. Quand vous faites beaucoup de sport, hein, parce que la ligne téléphonique est pas très bonne, donc on n'entend pas très bien. Vous faites beaucoup de sport, du coup vous demandez
est-ce
un peu
que
si
c'est
bon
pour la prostate.
Oui,
c'est bon.
La prostate. C'est bon.
Bien sûr, ben comme pour toute la santé en général, oui. Il a été montré que plus on regardait la télé, plus on avait de risques d'être opéré de la prostate, et que au contraire, si on marchait régulièrement dans la semaine, on avait moins de risques d'être opéré. Donc oui, effectivement, le sport et perdre du poids. Je sais pas si vous êtes en surpoids, mais la taille de la prostate dépend du tour de taille. Donc c'est certain que toutes les mesures diététiques et d'hygiène générale de santé sont favorables pour l'hypertrophie de la prostate.
Merci beaucoup Didier et bon courage à vous.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la prostate avec le professeur François Desgrandchamps à l'occasion de la 13e journée européenne de la prostate. Et on a Ghislain qui nous appelle de Bouéa au Cameroun. Ghislain, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
On vous écoute.
Bonjour monsieur.
Oui, bonjour docteur. Bonjour, j'ai une question s'il vous plaît. Voilà, je voudrais savoir parce que nous entendons ici une rumeur assez répandue comme quoi c'est la multiplicité de partenaires qui fait qu'on puisse avoir le cancer de la prostate. Alors, je voudrais savoir si le cancer de la prostate peut être provoqué par l'excès de sexe ou pas.
Alors, il y a deux questions en fait dans la voie, parce qu'il y a l'excès de sexe que vous dites.
Et la multiplicité de partenaires.
Le partenaire qui n'est pas
en
tout
fait,
à fait la même chose.
Voilà, ce qui est reconnu maintenant, c'est fait écho avec la fameuse théorie des émonctoires. Les émonctoires, c'est les cochonneries que le corps évacue, soit dans les selles, soit dans les urines. Dans le sperme, il y a deux substances qui sont plutôt cancérogènes, et donc plus on éjacule, moins il y a un temps de contact important entre ces substances et la prostate, et moins il y a de cancer, et toutes les statistiques convergent pour dire que il faut éjaculer un peu plus de 20 fois par mois pour réduire le risque de cancer. Mais à l'inverse, il faut faire attention et éjaculer, si je puis dire, proprement, parce que les maladies sexuellement transmises, par l'inflammation qu'elle provoque dans la prostate, augmente le risque de cancer de la prostate. Donc, la réponse à votre question, elle est double. Si la multiplicité des partenaires permet plus d'éjaculation, je le suppose en tout cas, c'est tant mieux. Si ça augmente le risque de MST, il faut l'éviter et donc avoir des rapports protégés.
Bon, plutôt avec la même personne, en fait, c'est ça qui protège. C'est ça que vous
oui, mais ça, c'est après, on n'a pas de conseils voilà. De cette nature, mais en tout cas, il faut éjaculer souvent, mais proprement.
Merci beaucoup, Ghislain, pour votre question. Du coup, dans la suite de Ghislain, des questions qui reviennent aussi souvent, c'est des questions sur l'alimentation. Est-ce qu'il y a une alimentation qui protège du cancer de la prostate? Alors, vous nous avez dit, de façon générale, que pour la prostate, il fallait manger de façon équilibrée et
oui.
Faire du sport.
Alors,
mais est-ce qu'on peut aller
sûr.
Un peu plus loin?
Oui, oui. Alors, les conseils qu'on peut donner en matière de prostate, que ce soit adénome et cancer, hein, c'est d'abord de manger moins. Il y a donc une relation entre le tour de taille et la taille de la prostate. Il y a une relation entre l'apport calorique et les cancers qui se nourrit des calories. Donc manger moins. Le deuxième, c'est manger mieux. Il y a quelques aliments à réduire et d'autres à favoriser. Ce qu'il faut réduire, c'est les graisses saturées d'origine animale, le beurre, le fromage, la viande rouge, qui donc augmentent le risque. Ça a été montré au Canada. Plus on mange de graisses saturées, et ben plus si on a des métastases, on va mourir vite par rapport à quelqu'un qui en mangerait moins. Donc il y a vraiment des preuves scientifiques. Donc réduire les graisses saturées d'origine animale, augmenter beaucoup les les fruits et légumes, dedans il y a le lycopène de la tomate, le colorant rouge de la tomate, il y a les crucifères comme le brocoli, et il y a également le jus de grenade. Et puis manger aussi plus d'oméga 3, les fameux acides gras polyinsaturés que l'on trouve dans les poissons gras. Donc ça c'est le deuxième conseil. Donc on a mangé moins, manger mieux, faire du sport, faire de l'exercice régulièrement. On en a parlé tout à l'heure, ça réduit le risque d'adénome de la prostate et ça augmente la survie quand on a des cancers. Et puis le dernier point, donc c'est d'éjaculer souvent.
Et alors, on va revenir juste quelques instants sur la tomate. Il y a des études vraiment beaucoup d'études qui montrent l'intérêt de cette consommation.
Absolument.
De tomates.
Absolument. Et en particulier une vraiment digne de foi, hein, qui est 50 000 Nord-Américains qui sont tous de profession paramédicale, opticiens, podologues et autres, qui sont engagés il y a plus de 20 ans à donner régulièrement des nouvelles de leur santé et de répondre à des questionnaires. Et depuis toutes ces années-là, et la dernière analyse date de l'an dernier, on peut montrer grâce à ça que plus on mange de tomates, moins on a de cancer de la prostate et moins on a de morts par cancer de la prostate. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une sorte de hasard, mais il y a de façon sous-jacente des mécanismes antioxydants. L'oxydation abîme les chromosomes, un peu comme la rouille, et en fait l'antioxydant, si on veut, peut les protéger. Et donc le lycopène est un très puissant antioxydant qui en fait se concentre dans la prostate et réduit le risque de cancer.
Donc la tomate est très intéressante.
Donc la tomate est intéressante, mais alors il faut en manger beaucoup. C'est pour ça qu'il faut manger de la sauce tomate, du ketchup et autres. Et tout est parti d'une étude dans les années 90 à New York, qui Giovannucci a montré que plus on mangeait de pizza, moins on avait de cancer. C'est parti de là.
C'est parti de là. Ouais. Ah d'accord. Et vous nous parlez, la dernière fois vous étiez venu dans l'émission, vous nous aviez aussi beaucoup parlé de la grenade. Est-ce que
oui.
c'est le même principe ou la
alors,
grenade est efficace?
La grenade est également un antioxydant, mais là il y a eu un bémol, c'est-à-dire que la même équipe qui avait montré que ça marchait a refait son étude contre un placebo, donc même couleur et même goût, et montre que oui ça marche, mais pas chez tout le monde. Et finalement c'est presque rassurant. Ça marche chez les gens qui manquent d'antioxydants. Donc comme on peut pas faire de bilan antioxydant facilement quand on est impatient, dans ces cas-là ce qu'il faut faire c'est tester. Il faut boire du jus de grenade, c'est un verre de jus par jour, et voir si ça marche sur son PSA. Le PSA est un excellent marqueur de suivi, et donc si avec les modifications diététiques on voit que le PSA reste stable ou s'infléchit, il faut continuer, sinon il faut arrêter.
On a Abdoulaye qui nous appelle du Burkina Faso. Abdoulaye, bonjour.
Oui, bonjour, docteur. Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, monsieur.
Et voilà, j'ai un ami qui m'a posé une question.
Oui.
Il a fait une échographie.
Oui.
Et la taille et le volume de la prostate a augmenté. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est ça le cancer de la prostate?
Absolument pas. L'augmentation de taille de la prostate avec l'âge est normale. Chez tout le monde, la prostate grossit. C'est presque anormal d'avoir une petite prostate de 20 grammes chez un homme de 70 ans. Donc, la prostate commence à grossir à partir de l'âge de 50 ans et ce n'est pas une maladie précancéreuse. C'est totalement différent. L'adénome de la prostate est complètement bénin. C'est un peu, si vous connaissez, comme le fibrome de l'utérus. C'est une sorte de grosse boule de tissu fibreux qui vient sans qu'on sache pourquoi et qui est simplement due au vieillissement, à l'âge. Donc ce n'est pas un risque, ça donne pas de risque de cancer.
Vous voilà rassuré, merci. J'espère. Abdoulaye. Mais il faut continuer à consulter quand on a une prostate qui...
Oui, alors il faut savoir que les grosses prostates augmentent le PSA, parce que le PSA dépend de la taille de la prostate, et c'est pas parce qu'on a un PSA un peu élevé qu'on a un cancer. Si la prostate fait 60 grammes, le PSA peut monter jusqu'à 6, c'est normal.
Je voudrais qu'on parle de la prostatite chronique, parce qu'on est en train d'avancer. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est exactement, et il y a des nouveautés en termes de...
Alors la prostatite connue, c'est une sorte de terra incognita encore pour les médecins. C'est bienvenue en terre presque inconnu. La prostatite chronique, c'est un grand fourre-tout et qui correspond à beaucoup de patients. On estime un peu moins de 10% des hommes, ça fait beaucoup, souffrent de ça. Et la traduction, ce sont des douleurs. Des douleurs que le cerveau a du mal à localiser dans l'organisme parce que la prostate n'est pas innervée. Et donc, le cerveau donne des douleurs qui sont entre les bourses et l'anus. On ressent ces douleurs-là qui irradient dans la verge ou qui irradient vers les fosses iliaques. Et donc, les examens sont faits, les examens sont normaux et on finit par prendre ces hommes pour des grands psychosomatiques, d'autant que la douleur chronique retentit sur l'humeur et que facilement on devient anxieux, dépressif.
Et donc, ces
gens s'enferment dans leur douleur, vivent très mal avec. Et donc, pour avancer dans ce domaine, il y a un test qui gêne un peu la pudeur, mais qui est très efficace. C'est l'analyse des sécrétions prostatiques que l'on obtient après massage de la prostate.
Voilà, vous nous expliquerez ça dans 3 minutes, juste après les informations. On reviendra sur cette prostatite chronique.
Massage.
Priorité santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des maladies de la prostate à l'occasion de la 13e journée européenne de la prostate. On en parle donc avec le professeur François Desgrandchamps, qui est chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et je vous rappelle le numéro de téléphone si vous avez envie de participer, le 33 1 84 22 75 75. Professeur François Desgrandchamps, juste avant les informations, vous étiez en train de nous parler de la prostatite chronique, en fait des douleurs de la région de la prostate inexpliquée, sur laquelle on ne voit rien et on dit en fait au patient vous n'avez rien. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là en termes de traitement ?
Donc, la première étape, c'est de savoir s'il y a ou pas une infection chronique de la prostate. Et donc, on examine les sécrétions de la prostate par une analyse d'urine que l'on fait juste après un toucher rectal un peu marqué, qui fait sortir les sécrétions. Et puis là, s'il y a des germes ou des globules blancs, on peut traiter par antibiotiques ou certains médicaments à visée prostatique. Mais tout le problème, c'est que beaucoup de ces hommes, en fait, n'ont rien. Les sécrétions sont normales. Et en fait, c'est la prostate qui garde une certaine mémoire de la douleur et d'un antécédent d'infection ou autre, passé éventuellement inaperçu plusieurs années avant, et dont le corps garde la mémoire. Et donc, pour ça, on a développé différents programmes, et notamment un programme d'ostéopathie qui fonctionne bien, qui guérit à peu près un homme sur deux. Et puis, il y a également le renouveau de la popularité des cures thermales, qui peuvent aussi améliorer un patient sur trois, à peu près 30, dans 30% des cas.
Et concrètement, l'ostéopathe, il fait quoi ?
Il y a différentes manœuvres. Pour l'ostéopathe, en fait, on arrive à déterminer le traitement ostéopathique en fonction de la posture du patient. C'est-à-dire que, très simplement, donc on a fait tout un livre avec Madame Jung-Kyung de Montebello, qui sort en ce moment, d'ostéopathie, qui montre que, en fonction de le positionnement du bassin des hommes, en fait, il se place en position un peu antalgique, et en fonction de ça, l'ostéopathe arrive à réduire la douleur.
Et ça donne de bons résultats.
De bons résultats, un malade sur deux est guéri.
Donc c'est important. On a au téléphone le professeur Georges Armand Ouénien, qui est chirurgien urologue andrologue au CHU de Cocody en Côte d'Ivoire. Professeur Georges Armand Ouénien, bonjour.
Bonjour Claire.
Est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence du cancer de la prostate en Côte d'Ivoire ?
Le cancer de la prostate en Côte d'Ivoire, effectivement, est un cancer qui est en nette progression depuis ces dernières années. La fréquence est évaluée à peu près selon le registre du cancer que nous avons. Les derniers rapports qui tourne autour de 12,5% à peu près. Le cancer parle de l'ensemble de tous les cancers au continent. Mais ce qu'il faut noter, c'est le premier cancer de l'homme chez nous en Côte d'Ivoire après 50 ans. C'est le premier motif d'hospitalisation dans nos services d'urologie et c'est la première cause de mortalité dans nos services d'urologie. Le cancer de la prostate est une maladie qui est très grave et qui est en nette progression.
Et avec toujours des patients qui arrivent relativement tardivement.
Très tardivement, malheureusement. Nous avons ici affaire à des cancers électriques très agressifs, comme on a dit tout à l'heure le professeur Desgrandchamps, mais un stade très avancé et avec le plus souvent des métastases. Et malheureusement, ce sont des patients que nous sommes obligés de traiter, le plus souvent de traiter en traitement hormonal, qui soit coûte très cher.
Oui, on va revenir au traitement. Est-ce que vous avez, est-ce que le test de PSA est facilement disponible en Côte d'Ivoire
Oui, facilement disponible. Oui.
Et les hommes commencent à y avoir recours ou pas ?
Oui, évidemment, dans nos hôpitaux, on le fait facilement. Dans les structures privées, nous avons des laboratoires performants qui nous permettent de réaliser cet examen. Bon, facilement, je dois dire que c'est pas toujours facile pour ces patients, mais ils arrivent à le faire. À le faire parce que déjà, nous pouvons faire le test ici en Côte d'Ivoire.
Vous aviez commencé à aborder la question des traitements. Quels sont les traitements dont vous disposez ? Vous avez parlé de l'hormonothérapie ?
Oui, c'est-à-dire que dans le cas du cancer avancé, nous ne pouvons que référer à l'hormonothérapie, mais comme vous le savez, ce sont des traitements qui coûtent relativement cher et qui ne sont pas à la portée de tous les patients, puisque notre système de protection sociale n'a pas encore de système d'assurance maladie. Donc, il n'y a qu'une seule minorité, une minorité qui peut vraiment payer. Et la radiothérapie, lorsqu'on doit pouvoir la faire, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore de radiothérapie. C'est en construction actuellement dans, dans notre CHU de Cocody. Et je pense que d'ici la fin de l'année 2017, voire 2018, nous pourrons associer à ce traitement
la radiothérapie. La radiothérapie, donc qui n'est pas encore disponible en Côte d'Ivoire, mais qui devrait l'être à la fin de l'année.
C'est oui, parce que c'est en construction. Jusqu'ici, tous les malades qui doivent bénéficier des radiothérapies sont obligés de les évacuer quand ils peuvent. Dans les pays, soit du Maghreb, soit en Europe. Ouais. Mais sinon, je pense que ce problème va être résolu d'ici la fin de l'année ou.
D'accord. Et dans les autres pays d'Afrique francophone, que ce soit Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest, est-ce que ces appareils de radiothérapie sont disponibles ou c'est la même situation qu'en Côte d'Ivoire?
Oui, je pense qu'il y a certains pays qui en disposent, oui. Je ne peux pas vous les citer, mais enfin, il y a certains pays en disposent.
Et vous avez aussi à disposition la chimiothérapie?
La chimiothérapie, oui. Nous avons un service de cancérologie qui est très, très performant. Nous avons des traitements, des médicaments, mais je vous dis, c'est très cher. Le seul problème, c'est le coût du traitement. Comme vous savez, c'est une question d'accessibilité financière à la santé qui est toujours pendant, mais sinon, nous disposons de ces molécules ici en Côte d'Ivoire.
Professeur François Desgrandchamps, je voudrais vous faire réagir à toutes ces questions-là. Est-ce qu'on avance dans le traitement des cancers de la prostate?
Oui, beaucoup. Deux points. D'abord, premièrement, on l'a déjà dit, ne pas traiter tout le monde. Ne pas traiter peut être un traitement pour les cancers pas agressifs. Pour les formes beaucoup plus agressives dont on parle à Cocody, il y a bien sûr la chirurgie, quand le cancer est vu tôt, ce qui reste un traitement très efficace et peu morbide, avec peu de complications si il est fait chez les hommes encore jeunes. Et puis pour les gens plus âgés ou les cancers plus avancés, donc la radiothérapie, l'irradiation, associée à l'hormonothérapie qui est une castration, puisque la prostate dépend de la testostérone qui est l'hormone mâle pour se développer. Le fait de bloquer la testostérone diminue, en tout cas pour un temps, l'évolution du cancer. La chimiothérapie, c'est quand le cancer ne répond plus à l'hormonothérapie. Et puis, ce qui est tout nouveau, c'est des nouvelles molécules qui, en fait, bloquent une autre source de hormonale, puisque le cancer de la prostate, quand il a plus la testostérone donc pour se développer, sécrète lui-même ses propres hormones mâles. Et donc, il y a de nouvelles molécules très efficaces qui permettent d'augmenter encore la survie des patients qui ont des métastases.
Et donc, de bloquer cette production.
Et bloque la production locale de testostérone, soit la production, soit le récepteur, et donc permettent d'augmenter la survie des patients métastasés. Et la question qui se pose maintenant, pour les pays qui peuvent en disposer, c'est la séquence des traitements. Parce que jusqu'à présent, c'était donc radiothérapie ou chirurgie pour les cancers localisés, et puis en cas de cancer métastasé, comme mon collègue l'a dit, donc une castration, mais la castration dure en moyenne 2 ans l'efficacité. Au bout de 2 ans, c'est la résistance à la castration, et dans ces cas-là, on était coincé. À présent, on a soit la chimiothérapie, soit ces nouvelles molécules qui bloquent la sécrétion locale hormonale, et la question qui se pose, c'est quelle séquence?
Je voudrais qu'on revienne sur ce terme de castration. C'est donc simplement en donnant des hormones.
C'est pas simplement, c'est un bouleversement de la vie, à la fois de la vie de tous les jours, bien sûr, et de la vie biologique. C'est un grand, grand bouleversement de la biologie de l'organisme. Alors, techniquement, c'est soit on
parce
opère...
que ça empêche l'érection, clairement, après.
Oui, dans 80% des cas. Les érections peuvent être préservées chez 20% des patients. C'est des mécanismes très, très anciens qui permettent de l'avoir, mais globalement, oui. Globalement, c'est l'équivalent d'une ménopause artificielle, c'est la ménopause de l'homme. Et donc, on a des bouffées de chaleur initialement, une baisse de libido importante, une impuissance. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a un risque d'infarctus du myocarde très important dans les 6 mois qui suivent le début du traitement, un risque d'ostéoporose, un risque d'hypercholestérolémie, de dépression, voire de démence. C'est pas du tout anodin de castrer un homme. Et donc, il faut respecter les meilleures indications qui sont quand vraiment le cancer est menaçant.
Merci beaucoup, professeur Wenyen, d'être intervenu. Je rappelle que vous êtes chirurgien, urologue, andrologue au CHU de Cocody en Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la prostate avec le professeur François Desgrandchamps. On a Yvon qui nous appelle de Port-au-Prince en Haïti. Bonjour Yvon.
Bonjour Claire.
Il est très tôt chez vous le matin, on vous écoute Yvon.
Et ma question est très simple. Je salue d'abord le professeur.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Ma question est très simple. Est-ce qu'il y a une certaine relation, une connexion entre notre nourriture, ce que nous consommons quotidiennement, et le cancer de la prostate.
Alors, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure.
On en a parlé déjà, et en fait, globalement, ce qu'on dit, c'est tout ce qui est bon pour le cœur, c'est bon pour la prostate, déjà. Donc, faire attention aux aliments trop gras, faire attention à pas manger trop, et puis également, faire de l'exercice physique régulier. C'est les meilleures façons de protéger sa prostate.
Merci beaucoup, Yvon. Bonne journée à vous.
Merci.
On a Jean qui nous appelle de région parisienne. Jean, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
On vous écoute.
Bonjour monsieur.
Bonjour professeur, je suis passé vous voir déjà à l'hôpital Saint-Louis. Et lorsque je suis venu vous voir, j'étais sous permission en traitement.
Oui.
Et là, le médecin, c'est pour l'hypertrophie...
bénigne de la prostate, oui.
Voilà.
Oui.
Et le médecin m'a mis maintenant que je suis un autre médicament plus fort, le Siladis, 8 mg.
Oui.
Et mon problème, je voudrais savoir, comme je n'aime pas prendre les médicaments, je voudrais savoir s'il n'y a pas de conséquences...
Alors c'est intéressant votre question parce que il faut toujours faire attention que le remède soit pas pire que le mal en matière de médecine. Alors le médicament que vous prenez, ça appartient à la grande classe des alpha-bloquants. Il faut savoir que la prostate, pour un quart de son volume, c'est un muscle, et un muscle qui en fait, quand il est contracté, empêche l'urine de passer. Et donc ces médicaments détendent le muscle et ça permet à l'urine de mieux passer. Mais ces médicaments qui bloquent le muscle prostatique peuvent également bloquer les muscles ailleurs. Et donc ils peuvent aussi bloquer les muscles des artères, provoquer une baisse de tension. Et en particulier pour le médicament que vous prenez, il bloque également la contraction des vésicules séminales. Et les vésicules séminales représentent à elles seules 80% du sperme. Et donc ce médicament peut provoquer une aspermie, c'est-à-dire en fait une absence, une anéjaculation, une absence d'éjaculation. Je ne sais pas si vous l'avez testé ou pas, mais c'est le problème. À l'opposé, donc cette molécule que vous avez, elle retentit peu sur le muscle des artères. Et donc il y a peu de risque d'hypotension, mais il y a un gros problème sur l'éjaculation.
On a bien répondu à votre question.
Deuxième point, j'ai fait beaucoup de sport, je bois beaucoup d'eau quand je nage. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences
Non, boire beaucoup, ça ne maintient pas en bonne santé. Hein. Ça a été montré depuis longtemps. C'est beaucoup l'industrie agroalimentaire qui nous dit qu'il faut boire et éliminer. Mais en fait, il faut boire à sa soif, sauf quand on est un bébé, qu'on n'a pas accès à l'eau, ou quand on est grand âge, où on perd un peu ses notions. Mais dans la vie de tous les jours, quand on est en bonne santé...
Ça veut dire quelle quantité? Parce qu'on a longtemps dit un litre et demi d'eau, donc ça non.
Il faut juste boire à sa soif. La soif est réglée sur un verre d'eau. Donc dès que vous avez soif, c'est qu'il vous manque un verre d'eau.
C'est ça. Mais donc, boire, oui, mais c'est pas boire.
C'est pas le fait de boire trop provoque des anomalies. Hein. En consultation, il y a des malades qui viennent pour deuxième ou troisième avis parce qu'ils urinent tout le temps et qu'aucun médicament fonctionne. Il suffit de faire ce qu'on appelle un calendrier mixtionnel, de leur demander de mesurer à chaque fois qu'ils urinent dans un verre gradué de cuisine le volume qu'ils font et de faire la somme. Et on voit parfois 3 litres, 4 litres. Et en fait, plus on boit, plus on a soif parce que les reins en fait s'habituent à avoir beaucoup de liquide et donc évacuent beaucoup, beaucoup de liquide. L'urine est très peu concentrée. Et donc, comme il y a beaucoup d'eau qui sort, la soif vient, donc c'est un cercle vicieux. Et donc les gens ne s'en rendent pas compte, c'est ce qu'on appelle la potomanie, ils boivent des litres et des litres. Une vessie, ça contient 250 millilitres. Si vous buvez un litre de trop, vous urinez 4 fois de trop et vous n'arrêtez pas d'y penser.
Merci beaucoup Jean, bonne journée à vous. On a Ismaël qui nous appelle de Conakry en Guinée. Ismaël, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour monsieur.
Bonjour à docteur aussi. Mon problème, c'est que quand je touche de l'eau, j'ai immédiatement envie d'aller uriner.
Oui.
Et si je ne vais pas très tôt, je risque de saluer mes amis.
D'accord.
Ça, c'est ma première inquiétude. Ça, c'est ma première inquiétude. Bon, j'ai une autre question par rapport au café noir.
Oui.
J'ai été conseillé par quelqu'un qui me dit que le café noir a des vertus médicinales qui peuvent prévenir la prostate.
Ok. Alors,
Raison pour laquelle j'ai commencé à consommer le café depuis 2015. Sinon, je n'avais pas la de l'utiliser.
Mmh. Alors, peut-être répondre à cette première question sur le café tout de suite, parce que je vous ai vu faire non de la tête.
Le café, c'est contre-productif, hein, parce que le café, au contraire, excite la vessie. Et donc, ce que vous avez, c'est pas un problème de prostate, mais c'est un problème de vessie hypersensible qui supporte pas bien d'être remplie. Et ça, c'est beaucoup comportemental. Hein. C'est quand on entend l'eau, quand on touche l'eau, quand on met la clé dans la porte, etc. Donc, en fait, c'est au départ une vessie un peu sensible. sensible. Et comme la vessie est sensible, on y pense. Et par exemple, vous allez être amené à uriner avant de partir de chez vous ou à calculer là où vous allez pouvoir aller aux toilettes si vous allez au restaurant. Rien que le fait d'y penser vous donnera envie d'uriner. C'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut casser par ce qu'on appelle une rééducation comportementale. C'est-à-dire que l'envie d'uriner que vous avez quand vous touchez l'eau froide, c'est dû à une contraction très puissante mais très brève de la vessie. C'est un très gros muscle, la vessie. La raison pour laquelle vous risquez de salir vos vêtements, c'est que le muscle vésical est bien plus puissant que le sphincter urinaire qui retient les urines. Donc, il n'y a aucune chance pour que le sphincter puisse compenser. La seule façon de vous en sortir, c'est de détourner votre attention. La contraction vésicale dure 3 à 5 secondes. Si vous pensez à autre chose à ce moment-là, bien sûr, vous irez uriner, mais c'est vous qui allez décider. Petit à petit, vous allez reprendre le contrôle de votre vessie. Pour penser à autre chose, ce que l'on dit, par exemple, c'est de compter à l'envers à partir de 100, quand l'envie se déclenche, ou dégrainer les mois de l'année à l'envers, ce qui est un petit peu plus compliqué, de façon à simplement passer le cap aigu de la contraction vésicale. Après, donc vous allez uriner peut-être, mais c'est vous qui l'aurez décidé. Et petit à petit, vous allez reprendre complètement le contrôle de votre vessie. Donc, c'est beaucoup comportemental ce que vous avez. Au départ, la vessie est sensible, mais en fait, ça envahit doucement votre vie. Et c'est un cercle vicieux que vous ne pourrez casser. Certains médicaments peuvent aider, mais beaucoup en prenant sur vous.
Ne pas aller uriner, en fait, à chaque fois qu'on a envie, c'est ça que vous êtes en train de
nous
dire.
Il ne faut pas uriner à chaque fois qu'on a envie, absolument.
Et pas se retenir non plus trop longtemps, c'est ça le...
Et pas se retenir non plus trop longtemps, oui. Donc
il faut une bonne dose. Je vous signale juste que ce sera le sujet de l'émission, justement, de lundi, sur les questions d'incontinence urinaire, puisque ce sera une semaine.
Hyperactivité vésicale.
Voilà, de sensibilisation à ces questions-là. Ismaël, est-ce qu'on a bien répondu à toutes vos questions ou vous avez quelque chose à rajouter?
Oui.
Donc, comptez à l'envers quand l'envie arrive.
Bon, la seule chose que je peux rajouter, c'est que la dernière fois que j'ai suivi votre émission, on avait donné des conseils que des fois, qu'il faut, quand on a envie d'uriner, de refuser un peu, de faire semblant qu'on n'a pas envie d'uriner. Et j'ai toujours essayé de faire ça.
Et ça a marché ou pas?
Mais oui, ça commence à marcher.
Et bien alors, donc vous avez commencé à appliquer les conseils du professeur Desgrandchamps, oui, qui dit qu'il ne faut pas y aller à chaque fois qu'on a envie.
Et réduisez le café. Le café donne beaucoup d'irritation vésicale et diurétique en même temps. Donc réduisez le café plutôt.
Et ne suivez pas tous les conseils de vos amis en termes de santé. Vaut mieux qu'on suive les conseils des médecins, non? C'est pas ça?
quand il y en a à donner.
Ça peut être pas mal. Merci Ismaël.
Merci,
et on va prendre
monsieur.
Une dernière question avec Richard. On a Richard qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Richard.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Bonjour monsieur.
Oui, j'ai senti des picotements, une petite douleur au bout de la verge, à la base de la verge, au niveau du pubis.
Oui.
Il y a de cela 2 mois. Est-ce que ça nécessite un test ou un examen pour...
Alors, le picotement dans la verge, il faut savoir s'il y a des sécrétions qui sortent par la verge. Dans ces cas-là, ça peut être une urétrite, donc une maladie sexuellement transmise qu'il faut traiter par antibiotiques. Sinon, les douleurs du gland isolées, sans rien, peuvent être des douleurs de prostatite chronique. On en parlait tout à l'heure. Le cerveau sait pas trop où est la prostate et donc donne des signaux de douleurs dans la région. Et souvent, ce sont des douleurs qui irradient le long de la verge à partir de la zone entre les bourses et l'anus. Mais parfois, c'est des douleurs complètement tronquées et les malades ont mal au bout du gland. Et donc, on peut évoquer alors, si jamais ça arrive souvent, apparemment chez vous, c'est arrivé qu'une fois, donc je pense que c'est anecdotique. Mais si ça arrivait très souvent, il faut envisager un diagnostic de prostatite chronique et faire cet examen des sécrétions de la prostate après avoir eu un toucher rectal un peu appuyé.
Mais rien à voir en fait entre la prostatite chronique et le cancer de la prostate.
Rien à voir officiellement. La prostatite chronique, c'est une inflammation, donc peut-être ça augmente un peu le risque de cancer, mais c'est très théorique. En pratique, non.
Et entre guillemets, le cancer de la prostate, au démarrage, il fait pas mal.
Le cancer
c'est
ne fait pas
ça,
mal, il
n'y
a aucun
alerte.
Symptôme, et quand c'est il ça. Fait mal, il est souvent très tard.
Merci beaucoup, Richard. Professeur François Desgrandchamps, vous publiez au mois de novembre, et vous reviendrez probablement dans l'émission d'ailleurs nous en parler, 2-3 choses que je sais d'elle aux éditions Hachette. Elle, c'est qui?
Elle, c'est elle.
C'est
la glande si délicate et si discrète que tous les hommes ont, et quand ils s'en rendent compte, souvent c'est tard, c'est parce qu'elle les embête. Elle, c'est la prostate.
C'est ça. Et la prostate, juste, on va terminer là-dessus, en soi, c'est pas une maladie, il y a des maladies associées à la prostate.
La prostate est un organe. Un organe qui est indispensable à la reproduction humaine.
Merci beaucoup François Desgrandchamps, et on va terminer en parlant du réseau international des instituts Pasteur qui se réunit en ce moment à Abidjan.
Priorité santé sur RFI.
En ce moment se déroule la réunion du réseau international des instituts Pasteur à Abidjan. Professeur Mireille Dosso, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Donc vous êtes directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. D'abord, que regroupe ce réseau international des instituts Pasteur? En tout, c'est combien d'instituts Pasteur?
Merci. Le réseau international des instituts Pasteur comprend 3 instituts Pasteur dans le monde.
Dont une partie en Afrique, mais pas que.
Oui, il y a une partie en Afrique, mais il y en a aussi au Maghreb, en Asie, en Europe, en Amérique latine aussi.
Et pourquoi ce réseau est-il important en termes de santé publique?
Ce réseau est très important dans le domaine de la santé publique, aussi bien au plan scientifique qu'au plan technologique, mais aussi au plan humain. C'est un formidable réseau mondial d'hommes et de femmes qui interviennent donc dans tout ce qui est épidémie et dans la surveillance épidémiologique mondiale des principales maladies.
Et par exemple, si on prend l'épidémie d'Ebola qu'il y a eu, en quoi ce réseau des instituts Pasteur a-t-il été utile?
Le réseau des instituts Pasteur, notamment l'Institut Pasteur de Sénégal, est intervenu personnellement sur ce réseau tout au début de l'épidémie en Guinée. Et les instituts Pasteur de la sous-région se sont également mobilisés au niveau des différents pays, justement, pour sensibiliser les populations, les professionnels de la santé, et puis aider, justement, à la surveillance et, dans certains cas, à la confirmation des cas.
Même chose sur la fièvre jaune?
Oui, sur la fièvre jaune, il y a un formidable réseau. L'Institut Pasteur de Dakar est centre collaborateur OMS pour la fièvre jaune et les arbovirus.
Sur la dengue aussi, en quoi le réseau des instituts Pasteur a-t-il été utile?
Eh bien, la fièvre jaune comme la dengue, le réseau joue un rôle important. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, c'est l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui a fait le diagnostic de l'épidémie de dengue qui a eu lieu ces derniers mois en Côte d'Ivoire.
Et de façon très concrète, comment vous travaillez ensemble? Comment se passe une réunion comme celle qui se déroule en ce moment, qui commence aujourd'hui, de ce réseau international des instituts Pasteur?
Oui, il y a d'abord, on est organisé en région, au niveau international, donc il y a la réunion du bureau exécutif qui se fait donc avec Paris et puis les différents représentants des régions, mais également nous sommes organisés en association. Il y a donc une association qui pilote aussi bien le volet scientifique et technologique que le volet d'enseignement et de training, etc.
Je voudrais qu'on parle plus précisément de l'Institut Pasteur d'Abidjan. Vous êtes à la tête de cet Institut Pasteur depuis 10 ans. Vous êtes en train justement de mettre plusieurs services de pointe dans cet institut. Entre autres, vous êtes en train de construire un centre d'études des pathogènes émergents. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit?
Effectivement, donc on a déjà construit une partie qui est la biobanque, qui va devenir biobanque régionale des pays de la CEDEAO, pour la conservation notamment des spécimens dans les conditions prescrites à l'international. Et nous sommes en train de faire un centre donc, pour l'étude des pathogènes élevés, avec des laboratoires de niveau 3 et un laboratoire de niveau 4. C'est notamment pour travailler sur les virus des fièvres hémorragiques dont fait partie Ebola et le virus de Lassa.
Et donc, qu'est-ce qu'on entend par un laboratoire, ce qu'on appelle P4, c'est-à-dire être capable d'étudier des pathogènes entre guillemets particulièrement dangereux et transmissibles?
Oui, tout à fait. C'est pour étudier les pathogènes particulièrement virulents, pour protéger bien sûr le manipulateur, l'environnement bien sûr et l'échantillon. Ça va donc permettre à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire d'avoir un rôle national, bien sûr, mais également un rôle dans la sous-région. C'est donc un projet très important que l'Institut, que le gouvernement ivoirien a décidé de financer.
Ce réseau des instituts Pasteur est assez unique au monde parce que c'est à la fois un réseau international, mais chaque pays aussi, et vous le dites par exemple pour la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui finance en très grande partie l'Institut Pasteur d'Abidjan.
Oui, nous sommes un institut national et nous dépendons du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc c'est le gouvernement ivoirien qui assume bien sûr le fonctionnement de notre institut. Mais pour des raisons scientifiques et technologiques et morales et éthiques, Nous appartenons donc au réseau international des instituts pasteurs. Nous avons donc des liens très anciens d'ailleurs qui datent depuis 1978 en ce qui concerne l'Institut pasteur de Côte d'Ivoire.
Une dernière question, professeur Mireille Dosso. Demain, c'est une journée ouverte au grand public dans le cadre de cette réunion du réseau international des instituts pasteurs.
Oui, tout à fait. Demain, c'est une journée scientifique qui est organisée par donc l'ensemble de la communauté pasteurienne et qui est ouverte au public scientifique, à ceux qui sont intéressés notamment.
Merci beaucoup, professeur Mireille Dosso. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et qu'en ce moment se déroule la réunion du réseau international des instituts pasteurs à Abidjan. On termine cette émission, professeur Desgrandchamps, sur la question de la prostate. En fait, il y a beaucoup d'actions de prévention, on l'a vu dans cette émission, en termes d'alimentation, d'activité sportive, pour prévenir les problèmes de prostate, beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à maintenant.
Oui, et puis c'est toujours de plus en plus prouvé, c'est-à-dire que les tabous se lèvent, et donc, comme disait notre collègue en Côte d'Ivoire, on trouve de plus en plus de patients qui ont des problèmes de prostate, parce qu'en fait, on y fait attention, que ce soit les problèmes urinaires quand on se lève la nuit. Avant, souvent, ça a été considéré comme une évolution normale du vieillissement, et puis on abandonnait les gens à leur triste sort, et le PSA qui permet de découvrir de plus en plus de cancers. Et donc, toutes les manœuvres de prévention prennent d'autant plus d'importance que ces maladies deviennent beaucoup plus présentes, parce qu'on sait les trouver.
Est-ce qu'on arrive à comprendre un peu plus pourquoi certaines populations sont plus touchées par ces cancers de la prostate,
oui, notamment,
entre autres en Afrique et
notamment
en
Afrique noire, en raison de modifications génétiques transmissibles, bien sûr, qui donnent une hypersensibilité aux androgènes, à la testostérone. C'est une des grandes raisons également pour laquelle aux Antilles, en dehors du chlordécone, ce produit chimique, il y a plus de cancers de la prostate qu'en métropole.
D'où l'intérêt de se faire dépister.
Et de faire le PSA à partir de 45 ans pour les Antilles.
Voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur Claire. François Desgrandchamps. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et demain on parlera de la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.sante@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 84 22 75 75. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.